American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Au sommaire de cette édition, le taux de chômage australien atteint 4,1% en juin, ce qui rend une baisse des taux d'intérêt moins probable. Testé positif au COVID-19, Joe Biden suspend temporairement sa campagne électorale alors que de plus en plus de voix lui demandent de se retirer définitivement de la course à la Maison-Blanche. Et en France, l'élection du président de l'Assemblée nationale ce jeudi, un indicateur crucial pour le nom du futur Premier ministre. Le taux de chômage de l'Australie est passé à 4,1% en juin contre 4% le mois précédent. La Banque centrale australienne souhaite une augmentation du taux de chômage à 4,5% d'ici la fin de l'année afin de pouvoir contribuer à la baisse de l'inflation. L'inflation a grimpé à 4% en mai, ce qui se situe au-dessus de la fourchette cible de la Banque centrale comprise entre 2 et 3%. Sally McManus, la secrétaire de la Confédération des syndicats australiens, la ACTU, affirme que le nettoyage de la centrale syndicale des travailleurs des secteurs du bâtiment, de la foresterie et de la marine, la CFMEU, pourrait prendre des années. La CFMEU est accusée de s'être livrée à des activités criminelles. L'exécutif national du Parti travailliste se réunit ce jeudi pour décider s'il continuera à recevoir des dons de la division construction de la CFMEU au niveau fédéral. On signale que les branches du Parti travailliste dans différents États, ainsi que la plus haute instance syndicale du pays, ont déjà suspendu leur lien avec la CFMEU. Sally McManus affirme que le processus visant à mettre en place une nouvelle direction et à restaurer la CFMEU prendra du temps. Le président Joe Biden a déclaré qu'il mettrait fin à sa campagne présidentielle si tel était l'avis de ses médecins. Écoutons-le au micro de la BET News.
There had some medical condition that emerged. If the doctors came to me and said you got this problem, that problem. But I made a serious mistake. In the whole debate. And look, when I originally ran, I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this, just pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so divided.
Entre-temps, hier, Joe Biden a dû suspendre sa campagne électorale après avoir testé positif au COVID-19. Et entre-temps, un nombre croissant de démocrates lui demande de se retirer définitivement de la course pour un second mandat. Et le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, s'est adressé à la Convention nationale républicaine à Milwaukee. J.D. Vance, âgé de 39 ans, a rappelé à la Convention que Donald Trump avait failli perdre la vie alors qu'il servait son pays et que malgré cela, il a fait preuve de leadership en appelant au calme et à l'unité nationale juste après avoir survécu à une tentative d'assassinat.
As soon as I knew he was okay, I felt relief, and then I was like, I cannot believe an assassin tried to take down the President of the United States. I was mad about it. Was he mad and angry? He called for national unity. He called for calm. He showed leadership, my friends, that the media keeps on saying they want somebody to tone down the temperature. Well, Donald Trump got shot, and he toned down the temperature. That's what a real leader does.
Et plus de 10 jours après le second tour des législatives en France, l'incertitude plane toujours. Mais les choses pourraient toutefois se décanter cette semaine, puisque la nouvelle Assemblée nationale va siéger à partir de ce jeudi 18 juillet et attribuer les postes clés de la Chambre. Ce jeudi aura lieu notamment le vote pour le président de l'Assemblée nationale. Le camp présidentiel et le nouveau Front populaire en ont fait un enjeu important. En effet, le camp du vainqueur aura un avantage pour revendiquer le poste de Premier ministre. Mais comme le souligne Raphaël Delvolvé de RFI, l'issue de ce vote en 3 tours est loin d'être certaine.
Les macronistes d'Ensemble pour la République, chargés par le président de former une coalition, veulent reconduire au perchoir Yael Braun-Pivet, au détriment du communiste André Chassaigne du nouveau Front populaire. Dans sa quête, l'ancienne majorité est désormais deuxième, avec une 20aine de sièges de moins que le NFP cherche des alliés et se tourne pour cela vers la droite avec laquelle elle partage l'hostilité à l'égard du bloc des gauches. La Macronie a d'ailleurs d'ores et déjà engagé des discussions avec le parti Les Républicains pour le retrait de leur candidat Philippe Juvin, mais reste à savoir quand il interviendra, entre les 2 premiers tours à la majorité absolue ou bien juste avant le 3e à la majorité relative. Tout dépendra du rapport de force après le premier tour. Et puis, que feront la 20aine de députés indépendants Liotte et leur candidat Charles de Courson? Plus imprévisible encore, la position du Rassemblement national. Leur candidat Sébastien Chenu va-t-il se retirer comme en 2022 après les appels de certains macronistes et de la gauche à évincer le RN de tout poste à responsabilité? Si personne ne souhaite être élu grâce à l'extrême droite, les quelques 140 députés RN pourraient peser très lourd dans le résultat final.
Il faut signaler que le vote pour le président de l'Assemblée nationale aura lieu à partir de 15h à Paris. Et toujours en France, la figure iconique à travers le monde et en France, l'abbé Pierre, défenseur inlassable des sans-abri et des mal-logés, qui est décédé en 2007, est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles commises entre la fin des années 70 et 2005. Ces faits ont été révélés dans un rapport indépendant commandé par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre et publié hier. À la suite des premiers récits, un dispositif de recueil des témoignages et d'accompagnement strictement confidentiel, s'adressant aux personnes ayant été victimes ou témoins de comportements inacceptables de la part de l'abbé Pierre, a été mis en place selon les 3 associations. Et selon une source interne à Emmaüs, aucun signalement à la justice n'a été fait à ce stade. Les troubles et la violence en Nouvelle-Calédonie ont pris une nouvelle tournure cette semaine avec des incendies contre des bâtiments religieux. Après l'incendie du presbytère, de la maison des sœurs, de la maison d'accueil et des salles paroissiales la semaine dernière, l'église de Saint-Louis a été incendiée dans la nuit du mardi 16 juillet. En quelques jours, ce patrimoine historique, symbole fort de l'histoire religieuse, intellectuelle et économique de la Nouvelle-Calédonie, a disparu. Pour Mgr Calvet, évêque de la Nouvelle-Calédonie, cet incendie est un choc, pas seulement pour les fidèles.
C'est une infinie tristesse. Les gens de Saint-Louis ont perdu leur église. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé par accident. Quand il y a un cyclone, eh bien, tout le monde se met ensemble pour travailler. Là, au contraire, il y a des gens qui ont voulu détruire et qui ont détruit plusieurs jours avant différents bâtiments de la mission, qui ont menacé la communauté religieuse qui était là, qui a dû être exfiltrée. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est profondément choquant. Et d'ailleurs je reçois des messages de partout, y compris de Calédonie, mais de Paris, des gens qui sont choqués à tous les niveaux de la société.
Et au Rwanda, les résultats partiels des élections législatives sont tombés dans la nuit du mardi à mercredi. Après la victoire écrasante à plus de 99% des suffrages de Paul Kagame, annoncée dès lundi soir, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le scrutin majoritaire des législatives conforte l'hégémonie du parti présidentiel, le FPR. Des résultats sans surprise que déplore Diane Rwigara, dont la candidature a été refusée par la commission électorale. Comme en 2017, Diane Rwigara n'a pas pu faire campagne.
Je ne comprends même pas, au fait, pourquoi on fait les élections au Rwanda. Parce que ça, c'est pas une élection, si on est honnête. La majorité des Rwandais vit dans la peur. Ils ont peur de voter pour un autre candidat. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas une élection. C'est juste un show. Pour satisfaire l'Occident, peut-être, pour montrer au monde, OK, vous voulez qu'on organise des élections, on va les organiser. C'est un gaspillage, en fait. On vit dans un pays pauvre, et donc de voir cet argent utilisé pour une soi-disant élection, c'est triste. Je trouve triste le fait que le Rwanda, après toutes ces années, continue de refuser à l'opposition leur droit de participer à la vie politique. Et je trouve encore plus triste que les partenaires étrangers continuent de supporter un régime qui ne laisse pas à l'opposition l'espace pour exprimer ses idées.
C'était l'opposante rwandaise Diane Rwigara au micro de nos confrères de RFI. Et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que son pays était prêt à conclure un accord avec le Hezbollah si ce dernier acceptait de retirer ses combattants de la frontière libano-israélienne. Yoav Gallant a néanmoins averti le groupe militant libanais qu'Israël était en mesure de lancer une nouvelle offensive en une seconde. Il affirme qu'un accord avec le Hezbollah pourrait intervenir quelle que soit la situation à Gaza. Mais le groupe armé libanais avait précédemment déclaré qu'il cesserait les combats contre Israël une fois qu'un accord de cessez-le-feu serait conclu à Gaza. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le 7 octobre dernier, des frappes aériennes israéliennes sur le Liban ont tué plus de 450 personnes, pour la plupart des membres du Hezbollah, ainsi que des civils et des non-combattants. Côté israélien, on déplore la mort de 21 soldats et 13 civils dans des affrontements avec le Hezbollah. Et pour clôturer ce journal, un coup d'œil météo à travers l'Australie. Bien, il pleut à Perth ce jeudi avec un maximum de 18 degrés. Ciel couvert à Adélaïde, 14 degrés. Pluies intermittentes à Melbourne, 12. Averse à Hobart, 11 degrés. Ciel partiellement couvert à Canberra avec un maximum de 11 degrés. Temps ensoleillé à Wollongong avec 17 degrés. Partiellement couvert à Sydney, 19 degrés. Possibilité d'averse à Newcastle avec un maximum de 19 degrés. Temps ensoleillé à Brisbane, 20 degrés. Conditions similaires à Cairns avec un maximum de 24 degrés. Et très beau temps à Darwin avec un maximum de 28 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.